Message où j'ai besoin que vous soyez avec moi. Je crois que c'est un message où Dieu va toucher nos cœurs, toucher nos émotions en particulier. Voilà, on va prier par rapport à ça. Père, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as déjà fait ce matin dans nos cœurs, Seigneur. Et merci pour ta parole qui va continuer de nous modeler à l'image de Christ. On veut t'apporter, Seigneur, notre vie, nos émotions, et on veut t'autoriser à venir nous parler ce matin. Ma prière est que chacun puisse se sentir étreint par toi, Seigneur, et par ta présence au milieu de nous. Amen. Amen. Donc on continue dans l'évangile de Jean. La dernière fois, c'était Joël qui avait plusieurs chapitres. C'est mieux quand c'est les autres. Cette fois-ci, on a trois chapitres d'un coup. Et c'est pas facile de résumer ou d'aller à l'essentiel. Donc je suis désolé, ce ne sera pas un court message. Mais je pense que ça, c'est un message important. Vous savez qu'on dit de l'évangile de Jean que c'est l'évangile de l'amour. Et on va voir que ce matin, c'est vrai. Ce sont des chapitres particuliers. Et donc, on va rentrer là-dedans. On va aussi lire, hein. On va passer d'un chapitre à l'autre. On ne va pas les lire, bien sûr, en continu, sinon on est là jusqu'à 14 heures. Mais on va lire dans les évangiles. Donc, nous sommes après le chapitre, ah ça va, vous êtes toujours là, après le chapitre 13, et nous sommes dans les derniers instants, avant l'arrestation de Jésus, qui va le conduire, bien sûr, à la crucifixion. Rappelons-nous, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et a pris son dernier repas avec eux. Et à ce moment-là, il a institué ce qu'on appellera la scène. Et maintenant, il va livrer ses dernières paroles envers ses disciples, qu'il clôturera. Il clôturera son discours par une magnifique prière qu'on verra la semaine prochaine avec Damien en Jean 17. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Si vous êtes enseignant, c'est votre dernière heure de formation avec vos élèves. Si vous quittez votre travail, c'est votre dernière heure avec ceux avec qui vous avez peut-être partagé 10 ans, 20 ans, voire 40 ans de votre vie. Si vous êtes papa ou maman, c'est votre dernière heure avec votre enfant avant qu'il ne quitte le foyer et qu'il vole de ses propres ailes. Je me souviens de ce moment où, pour ceux qui l'ont connu, Astrid, la maman d'Ethan, a enregistré une vidéo avant son décès pour lui laisser ses derniers mots. Je vous ai dit que c'était un message avec les émotions ce matin. Souvent, c'est un moment particulier où chaque mot est choisi, où chaque mot est lourd de sens et rempli d'émotions. Et je crois que ce matin, on est là. Les mots de Jésus sont choisis. Ils sont remplis d'émotions et de chaleur. Ça va, j'ai réussi à attirer votre attention. Alors, mes parties sont totalement déséquilibrées ce matin et on va passer plus de temps sur la première partie, donc ne soyez pas effrayés si elle est longue, c'est parce que les autres seront plus courtes. Et bien sûr, de quoi est-ce qu'il nous parle le plus? J'en ai parlé. Jésus nous parle d'amour. C'est impressionnant dans ces trois chapitres combien de fois le mot amour revient. C'est juste impressionnant. Si tu doutes, peut-être ce matin, de l'amour de Jésus pour toi, je t'en supplie, laisse-toi toucher par ces vagues d'amour de Jésus qui vont te déferler, qui déferlent les unes après les autres dans ces chapitres. La première, alors que Jésus va être arrêté sous peu, le chapitre 14 commence par « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Jésus se préoccupe plus de ses disciples que de lui-même à ce moment-là. Jésus les aime vraiment. Alors que sa propre personne est plus importante. Rappelons-nous, il est le Fils de Dieu. Alors que sa mission est la mission la plus importante de tous les temps, il est venu pour arracher les hommes et les femmes à l'enfer. Jésus se soucie de comment vont ses disciples et de ce qu'ils ressentent, eux. Alors que lui va connaître l'angoisse extrême, la Bible nous dit que des grumeaux de sang vont couler de son front. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, que votre cœur ne se trouble point. J'insiste ce matin et je vais insister longtemps sur ce point-là. Jésus nous aime profondément. Deuxième vague. Alors que lui va connaître la mort le lendemain, il rassure ses disciples en leur disant « n'ayez pas peur de la mort, ce n'est pas la fin. Je reviendrai, je m'en vais, je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Waouh ! Quel splendide témoignage d'amour. Parfois, dans notre vie, nous pouvons nous sentir découragés, comme n'ayant plus de force, n'ayant plus la force de continuer à avancer ou n'ayant plus la force de nous battre face aux difficultés de la vie. Nous pouvons arriver à un point où nous n'avons plus le courage de continuer. C'est comme si nous allions vers une forme de mort. Et Jésus nous montre ici où trouver le courage. Dans l'amour. Dans l'amour. L'amour est un puissant moteur. Il est le moteur par excellence pour trouver le courage de continuer à avancer malgré les difficultés. Nous connaissons cette expression, l'amour donne des ailes. Nicolas, on va regarder un petit extrait. C'est pour pas que vous endormiez. Merci. Avant d'entendre n'importe quel commentaire, je sais que vous m'avez reconnu dans les séances de sport du jeudi soir. Damien n'est pas là, j'en profite. Vivre pour soi est une chose pas très motivante. Contrairement à ce que le monde essaie de nous faire croire par toutes ces pratiques de développement personnel, d'accomplissement de soi, etc. Mais vivre par amour pour quelqu'un, ça c'est un moteur très puissant dans nos vies. Tu peux te tourner vers ton frère et ta sœur et lui dire « Ton amour me donne du courage. Ton amour me donne du courage. » Il suffit parfois d'un simple mot d'amour pour retrouver l'énergie, la passion, la volonté de se battre à nouveau. Et Rocky, il a gagné. Troisième vague. Jésus sait qu'il part. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous envoie un consolateur. Verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Qui a déjà souffert d'abandon dans sa vie ? Je ne demandais pas forcément de lever la main, pardon. L'abandon peut être vécu de différentes manières. Un papa ou une maman qui ne s'est pas occupé de nous quand on était petit, le divorce d'un conjoint ou le papa et la maman qui quittent le foyer pour aller vivre ailleurs. Lors du décès d'un proche, on peut aussi ressentir ce sentiment-là, le fait d'être laissé seul. En psychologie, on dit que l'abandon peut prendre plusieurs formes, notamment l'abandon émotionnel. Cela se produit lorsqu'une personne ne reçoit pas l'attention, la validation ou l'affection dont elle a besoin pour se sentir aimée et soutenue. Cela peut se produire dans une relation amoureuse, une amitié, une relation parent-enfant. L'abandon émotionnel peut également être renforcé par des parents qui sont absents physiquement ou simplement émotionnellement, ou qui sont préoccupés par d'autres choses que les besoins de leurs enfants ou de leurs proches. L'abandon physique. Cela se produit lorsque quelqu'un quitte la vie de quelqu'un d'autre, comme un parent, comme on a dit, qui abandonne son enfant, un conjoint qui quitte son conjoint. Cela peut également se produire lorsque quelqu'un subit un traumatisme physique ou une maladie qui le rend incapable de subvenir à ses besoins de base comme se nourrir, se vêtir ou se déplacer. Et puis il y a l'abandon social. Cela se produit lorsqu'une personne est exclue ou rejetée d'un groupe ou d'une communauté. Cela peut se produire à l'école, au travail, ou dans d'autres contextes où on est en groupe, contextes sociaux. Cet abandon provoque des blessures en nous. Et ces blessures peuvent être l'anxiété, la dépression, des problèmes ou des difficultés pour s'attacher à quelqu'un, une faible estime de soi, un sentiment d'humiliation ou de trahison, ou même d'injustice. Jésus s'en va. Et il a conscience de tout ça. Et il prend soin en remplaçant son départ par un autre consolateur. C'est intéressant que ce soit ce mot-là qui est choisi à ce moment-là. Il n'a pas dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Il a dit « Je vous enverrai le Consolateur » ou un autre Consolateur. Jésus donne là une grande preuve d'amour en nous disant quoi ? « Je ne vous abandonnerai jamais ». Ça a été prié ce matin. « Je ne vous abandonnerai jamais ». Je ne vous abandonnerai jamais. On a besoin de l'entendre. Laissons descendre l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans une profondeur plus grande. Quatrième vague d'amour. Comme le chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je le répète ce matin, laisse ces vagues d'amour de Jésus, du Père et du Saint-Esprit déferler les unes après les autres sur toi. Je partageais ce verset avec mon groupe de maison cette semaine et j'avoue que c'est un verset que j'ai du mal à comprendre et parfois même à accepter. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Waouh ! Quelle dimension ! Et je nous invite ensemble ce matin à nous laisser noyer par cet amour immense dont Jésus nous parle. Il ne nous parle pas d'un amour humain qui dépend des circonstances, qui peut s'arrêter dans le temps. Jésus nous parle de cet amour énorme, éternel, qui ne change pas, qui recherche la gloire de l'autre. Cet amour qui aime au sens le plus absolu. C'est avec ce même amour que Jésus nous dit ce matin. Je vous aime. Waouh. Waouh. L'amour, le même amour du Père envers le Fils. Jésus nous aime pareil. Et la cinquième vague, c'est chapitre 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus met le comble à l'amour déversé dans la vie du croyant en mentionnant par deux reprises dans ces chapitres que le Père lui-même nous aime. Étant désormais placé en Christ, Dieu dans son immensité et dans son entièreté nous aime. Et la conséquence immédiate de cet amour, c'est que l'entièreté de Dieu, ça va ce mot ? Dieu entier, non pas qu'il puisse être séparé, vient faire sa demeure en chacun de nous. Chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous, Jésus le Père, viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 17, « Car il, et il est question du Saint-Esprit, demeure avec vous et il sera en vous. » Waouh, waouh, quel amour Seigneur. Nous devenons le lieu par excellence de la présence de Dieu. Nous devenons le temple saint où Dieu prend plaisir d'habiter, de demeurer et d'accomplir son œuvre. Est-ce que ça vous fait du bien de réentendre cela ? Moi, oui. Ça recharge mes batteries émotionnelles. C'est aussi à cause de l'étendue de cet amour qu'à plusieurs reprises dans ces chapitres, Jésus va répéter « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. » Quel est le moyen par excellence pour arriver à cela ? Eh bien, Jésus va dire « Gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui, celui qui m'aime. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer dans l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement lire sa parole, mais c'est aussi la méditer, la repasser dans sa tête, la parler avec d'autres, la garder près de son cœur, la laisser transformer jour après jour nos vies. Et alors que nous faisons cela, je pense que quelque chose devrait nous sauter aux yeux. Un comportement doit apparaître et se voir clairement. Si vous avez bien lu les chapitres, il y a un commandement particulier auquel Jésus fait référence. Chapitre 15, verset 12 est répété au verset 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je peux ne pas avoir une grande intelligence ou être débordé parfois dans ma vie, et cela peut avoir pour conséquence que je ne passe pas assez de temps avec la parole de Dieu. Moi, ça m'arrive. Mais il y a quelque chose où nous ne pouvons pas avoir d'excuses. C'est aimer nos frères et nos sœurs. Je nous invite vraiment ce matin à laisser le poids de ce que Jésus nous dit descendre dans les profondeurs de notre cœur. Demeurer dans cet amour immense que le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit déploient sur nous passe par aimer continuellement mes frères et mes sœurs. Et comme nous l'avons mentionné un peu avant, aimer, ce n'est pas qu'une affaire de sentiments. C'est aussi passer du temps avec. C'est se soucier de la vie de l'autre. C'est s'entraider. C'est s'encourager. C'est se visiter, etc., etc., etc. J'en profite pour rappeler qu'il y a des groupes de maisons en semaine. Et que malheureusement, pas assez de personnes de l'Assemblée en font partie. Et je pense que ça fait partie de se demeurer dans l'amour de Dieu. Père, merci pour cet amour incroyable que tu manifestes envers nous. Merci pour Jésus. Merci Jésus pour cet amour qui va jusqu'au bout. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls quand tu es reparti auprès du Père, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit. de lui maintenant. On continue. Deuxième partie qui sera plus courte. Le don du Saint-Esprit. Comment parler de ces chapitres sans parler du don du Saint-Esprit ? Chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Chapitre 15, 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes à moi dès le commencement. » Et chapitre 16, à partir du verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Les promesses des prophètes, et en particulier de Jérémie et de Joël, vont s'accomplir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va être répandu sur toute chair. Et la loi de Dieu va être écrite dans le cœur du peuple de Dieu, avec le cœur de la loi. Aimez-vous les uns les autres. Dans cet immense amour de Dieu envers son peuple, Dieu fait le don de sa présence permanente pour nous accompagner efficacement sur le chemin du salut. Au moment de la conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous et y rester, y demeurer, jusque dans l'éternité. Je ne suis alors plus étranger à sa présence. Je n'ai plus besoin d'un accès balisé et restrictif pour accéder à Dieu, mais j'ai un libre accès à sa présence et un accès instantané. Comment rentrer dans la présence de Dieu ? Voilà, on y est. C'est instantané, d'accord ? Il n'y a pas besoin de rite ou de processus. Car désormais, grâce au don de Christ, le Saint-Esprit habite en moi. Et je suis le temple permanent de Dieu. Peu importe où je me trouve. Peu importe. C'est pourquoi à tout moment, en tout lieu, dans n'importe quelle circonstance, je peux être dans la présence de Dieu et ressentir qu'il est là, à mes côtés, en moi. Je ne suis plus jamais seul. Le Saint-Esprit m'accompagne dans tout ce que je fais et je peux venir à lui instantanément. Et c'est pourquoi dans les versets qu'on a lus, il est dit qu'il m'enseigne la volonté de Dieu, qu'il me rappelle ce que Jésus a dit, qu'il me pousse à être un témoin de l'Évangile, qu'il me convainc de péché et de la nécessité d'en sortir à cause du jugement de Dieu, qu'il me conduit dans la vérité, qu'il me prépare aux choses à venir et qu'il glorifie Dieu au travers de moi. Waouh. Waouh. Et tout ça, ça baigne dans cet amour incroyable que Dieu a pour nous. Afin de suivre Jésus, le Saint-Esprit est notre meilleur allié. Alors, comme l'apôtre Paul nous y encourage, marchons par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et on arrive à la dernière partie. Demeurer dans l'amour de Dieu, de devenir le temple de Dieu et le laisser nous guider, ceci a une grande conséquence, quelque chose de merveilleux, c'est que ça rend nos prières efficaces. Je le redis, demeurer dans l'amour de Dieu et vivre par l'Esprit, ça rend nos prières efficaces. Dieu exauce nos prières, les amis. Ça dort beaucoup dans la salle. Hein. Dieu exauce nos prières. Amen. Chapitre 14, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Chapitre 15, verset 7 et 8. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Chapitre 16. À partir du verset 23. « en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit des choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Si tu avais besoin d'être encouragé dans la prière ce matin, c'était le jour. C'était les bons chapitres. Jésus nous encourage et nous fait réfléchir ce matin. Pardon, mais c'est le seul moment peut-être un peu piquant. Portons-nous du fruit dans la prière. Posons-nous la question sincèrement, alors que nous baignons pleinement dans l'amour de Dieu. Portons-nous du fruit dans la prière. Voyons-nous majoritairement nos prières exaucées, ou trouvons-nous que Dieu y répond pas trop? C'est une bonne question. Hein. C'est pas moi qui la pose, c'est la Bible. Si nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues, alors nous sommes encouragés ce matin à plusieurs choses, et on va les répéter. Demeurez dans l'amour de Jésus, du Père et du Saint-Esprit, qui fera que le royaume de Dieu devienne jour après jour beaucoup plus important que ma propre personne. Si tu as envie que ta prière soit entendue, demeure dans l'amour de Dieu. Deuxième chose, grandir. Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et en particulier dans le fait d'aimer toujours plus ton frère, ta sœur. Aimer en parole et en acte concret. Tu as l'impression que tes paroles ne sortent pas de la pièce? Pose-toi la question. Tu aimes ton frère et ta sœur? Troisième chose, demander l'aide au Saint-Esprit pour qu'il inspire notre prière. Il est celui qui nous guide et nous conduit dans la vérité et dans la vérité spirituelle, dans les choses que nous ne voyons pas. Et enfin, Jésus répétera plusieurs fois, « Vous n'avez pas demandé en mon nom. » Demandez au nom de Jésus. Alors on l'a dit plusieurs fois ces derniers temps, ce n'est pas une formule magique, d'accord, qui fait la conclusion de notre prière au nom de Jésus. Et du coup, je peux demander n'importe quoi. Du moment que j'ai signé au nom de Jésus, c'est bon. C'est pas ça que le Seigneur est en train de nous dire, pas du tout. Demander au nom de Jésus, ça veut dire nous soumettre totalement au nom de Jésus. Nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. Demander au nom de Jésus, ce n'est pas exprimer ses propres désirs. Je veux une belle voiture, une belle maison, etc. Demander au nom de Jésus, c'est demander ce que lui veut pour nous. C'est comprendre que nous représentons Jésus. L'apôtre Paul dira que nous sommes le corps de Christ. Nous représentons Jésus par la prière. Et ce n'est pas nous qui passons commande, c'est lui. Amen. Priez au nom de Jésus. C'est lui qui passe commande. Et moi, je me mets à genoux. Et je prie ce que le Seigneur me donne de prier. Et je pense que si on grandit dans tout cela, on va voir nos prières exaucées. Ce que vous demanderez, je vous le donnerai. On est à la fin, Pierre. On va passer un moment de prière, si vous voulez bien, dans la prière.